franceinter.fr.
Qu'est-ce que c'est que ces petits papiers que vous faites passer à la marathon,
c'est
Laurent
Delmas?
Laurent Delmas
a conscience que dans deux ou trois jours, dans deux jours, c'est le printemps. L'occasion d'ailleurs de rappeler que les jardins sont à l'honneur au printemps. C'est inouï. Ils sont au Grand Palais avec une magnifique exposition jardin. Ils sont au Centre Pompidou-Metz avec Jardin Infini. Ils sont restaurés à Chambord. Et demain d'ailleurs, le Président de la République et la Ministre de la Culture inaugureront ces jardins qui retrouvent leur éclat. Ils sont également à Marquessac où moi-même j'aurai la chance d'être mardi.
Bon, ça va, on va
inaugurer.
Pas non plus faire l'air du catalogue.
C'est pour dire que c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la vie et j'en suis très heureux.
Et quel est le saint patron des jardiniers?
Eh bien justement, l'occasion là encore de parler du printemps, il s'agit d'un homme exceptionnel qui s'appelle Saint Fiacre. Et autrefois, les anciens bénéficiaient le 30 août, jour de la Saint Fiacre, d'une journée exceptionnelle de repos. Cette tradition, malheureusement, a depuis longtemps disparu et je le regrette vraiment.
Alors, il paraît que c'est un sacré bosseur.
Oui, alors déjà, il faut savoir que Saint Fiacre est né alors en Écosse ou en Irlande, il y a un petit doute. Et il arrive en France en 627, je parle bien sûr, sous le contrôle d'Isabelle, qui est beaucoup plus compétente que moi pour parler des saints. Alors, c'est à Meaux, dans l'actuelle Seine-et-Marne, qu'il s'établit après avoir...
À Meaux,
dans le département de Seine-et-Marne, cher, je crois, à Jean-François Copé. Et il s'établit après avoir obtenu de son évêque, non sans avoir longuement bataillé, une modeste parcelle de terre.
C'est un bosseur.
Et c'est là où, effectivement, on le découvre, sacré travailleur. Imaginez, en une journée, une seule, il creuse autour de ses terres un fossé pour isoler son domaine. Chose extraordinaire. Son bâton fait mieux qu'une hache. Et là encore, en un jour seulement, il est capable d'abattre, de débiter et d'évacuer des dizaines d'arbres. Fiacre peut maintenant...
On est obligé de vous croire sur parole.
Je parle, moi, de Saint Fiacre, de l'homme tel qu'il a été... Moi, je l'ai très bien connu.
Oui.
Ce que je sais avec certitude, c'est que Fiacre peut maintenant travailler la terre et cultiver des légumes, et ce, pour la bonne cause. Et oui, on parle d'un saint homme, je vous rappelle, qui, pour nourrir les plus malheureux et qui viennent à sa rencontre tous les jours de plus en plus nombreux, eh bien, il va produire des légumes.
Il n'a pas produit de plantes médicinales, celui-là?
Et c'est aussi parce qu'il a acquis, avec le temps, une très grande réputation de guérisseur. Et ses potions et crèmes, au dire des villageois, je suis prudent, font des miracles. Il a même une spécialité qui devrait, je pense, Laurent, vous intéresser, il soulage le mal de Saint Fiacre, autrement dit, les crises d'hémorroïdes. Alors, les siècles suivants, il est conseillé d'offrir aux nouveau-nés des médailles à l'effigie du saint homme pour les préserver des crises si douloureuses. Même les plus grands du royaume sollicitent Saint Fiacre, comme Louis XIII qui porte autour du cou un médaillon, et en ça, on le sait moins, Anne d'Autriche qui fera donner une messe en l'honneur de Saint Fiacre à la naissance du futur Louis XIV.
Mais il n'y a pas un hôtel à Paris qui a porté son nom?
Oui, en plein cœur de la capitale, rue Saint-Antoine. C'est d'ailleurs ici, sous l'enseigne du Saint, que l'on stationnait les voitures à cheval chargées de mener les voyageurs dans les rues de Paris, des équipages appelés tout naturellement des fiacres.
Bon, j'ai reçu un courriel.
Eh bien oui, Pierre Veil.
Moi, je pensais au cinéma Maigret et l'affaire Saint-Fiacre.
Préparez votre interview d'Audrey Azoulay.
Avec Jean Gabin, un des premiers rôles de Robert Hirsch, non?
C'est vrai, oui. Dans le rôle d'un curé. Oui, très bien.
Bon, mais comment voulez-vous que Baraton s'y retrouve?
Mais c'est ça qui est merveilleux. Le jardin, c'est la vie. Et j'aime bien l'idée qu'un jardin amène à parler de cinéma.
Eh bien, je vais vous dire, vous allez vous faire gronder. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un courriel pour nous dire qu'il avait repéré qu'autour du bassin de la Tonne,
très beau bassin à Versailles.
Dans le parc du château de Versailles.
Tout à fait.
Avaient été plantés des arbres, des charmilles, qui viennent de...
Ah, je ne sais pas.
Sierra Leone.
Alors, je vous explique déjà les charmilles.
Alors, il n'est pas content du tout.
Alors, je vous explique, les charmilles sont des charmes qui sont taillés en haies. Il faut également savoir que Versailles, comme tous les établissements publics, achète des végétaux là où il a passé des appels d'offres. Il y a des appels d'offres obligatoires. Mais très honnêtement, des charmes qui sont des arbres à feuilles caduques, qui viendraient d'un pays qui s'est spécialisé dans la production des palmiers et autres plantes exotiques, voyez-vous, je doute. Non, il est vrai que quantité de végétaux plantés à Versailles viennent des pépinières allemandes ou italiennes. Parce que nous respectons les procédures. Je déplore d'ailleurs souvent que l'État ne fasse pas suffisamment pour les pépinières françaises, car j'aimerais que les arbres à Versailles ou ailleurs viennent des pépinières alentours. C'est vrai, mais je doute réellement, d'ailleurs je l'affirme, qu'aucun végétal, sauf exotique bien sûr, vient des pépinières de Sierra Leone. Je serais même incapable de vous dire s'il y a vraiment dans ce pays d'Afrique. Je vous rappelle que la Sierra Leone est un pays qui est au milieu
de la Côte d'Ivoire.
Tout à fait. Voilà. Et je doute que des charmilles puissent être produites dans ce pays. pays.
Est-ce qu'il existe une méthode pour accélérer la floraison des tulipes, Clotilde?
Oui,
voudrait savoir ça.
Oui, mais il est trop tard, malheureusement. La tulipe a besoin de froid. L'oignon de tulipe est peut-être doté d'une sorte de petit cerveau qui lui dit, tiens, le froid est passé, donc l'hiver est passé, donc je peux fleurir. Et il est vrai que la tige, la feuille, a sorte de terre après les gelées les plus importantes. Eh bien, la tulipe est un peu sotte. Il suffit tout simplement, avant de la planter, de mettre les bulbes au congélateur pendant 15 jours, 3 semaines. Et je ne plaisante pas.
C'est pas gentil de faire jouer ce tour-là.
Non, mais elle croit que c'est l'hiver quand vous la replantez.
Oh, la pauvre.
Voilà. Et c'est pour ça que chez les fleuristes, il vous est possible d'avoir des fleurs de tulipe en janvier ou février, bien avant la floraison, parce que eux connaissent la technique.
Est-ce que vous pensez que je peux faire la même chose avec Pierre Veil? Je lui mets un petit coup, pas au congélateur, ce sera trop froid, mais un petit coup au réfrigérateur, hop.
J'ai rien.
Le week-end prochain, je sors, il est tout frais.
C'est vrai. J'en profite par contre pour rappeler, pardonnez-moi.
Il n'est pas sot.
Voilà.
Il est même très loin d'être sot.
J'en profite pour rappeler que nous parlions de la Sierra Leone, qu'il y a aujourd'hui par contre, on en parlera un jour si vous le souhaitez, un scandale à propos de la production des fleurs dans les pays étrangers et en particulier l'Afrique. Et sous couvert de production naturelle, sous couvert de commerce équitable, on n'hésite pas à détourner des cours d'eau pour alimenter des pépinières ou des lieux de production au détriment des villageois. Oui, acheter un bouquet de fleurs qui a été produit en Sierra Leone ou en Équateur, là ce n'est pas très écolo.
Puis-je rabattre un vieux lilas qui n'a pas fleuri depuis longtemps, vous demande Régis.
Ah oui, c'est possible, je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup par contre. Oui. Non, bon. On ne touche pas au vieux lilas. Vous savez, un lilas va mettre beaucoup de temps pour se développer.
On ne touche pas au vieux lilas. On dirait vraiment une devise.
C'est un message, non?
Oui, mais non. Mais non. Laurent Delmas.
L'association
est un être vivant qui met du temps pour se développer. Il vit au rythme des saisons. Chaque année, d'ailleurs, quand on regarde son bois, il va produire une couche de bois supplémentaire. On ne peut pas, du jour au lendemain, le couper ou le rabattre brutalement. C'est un traumatisme. On pense souvent qu'en coupant ou en taillant un végétal, on lui donne du peps, on lui donne du ressort. Pas du tout. On crée un stress qui l'incite à produire davantage de feuilles pour lutter contre, justement, ce manque de végétal. Les feuilles sont autant de panneaux solaires qui lui permettent de capter les rayons du soleil et de transformer cette énergie en un moteur pour le végétal. Si vous supprimez les panneaux solaires du végétal, il ne peut plus vivre.
Vous avez compris?
Oui, il y a une fable qui est de La Fontaine qui est la sotte tulipe et le vieux lilas.
Est-ce que vous avez une idée de balade ou un livre, pour terminer?
On en reparlera, on en fera une chronique bientôt. Bien entendu, c'est Jardin à Paris, au Grand Palais.
Ah, oui.
Une exposition magistrale sur l'art des jardins. Je vais même, si vous le permettez, contacter Laurent Lebon qui, je crois, en est l'un des principaux initiateurs pour l'inviter à parler de cette manifestation.
En direct, nous préparer, Patricia, voici l'heure, c'est Ricu, vient de paraître
l'imaginaire des jardins
sur cette
palais.
Très belle expo dans laquelle il y a un entretien avec Alain B. de Versailles, qui dit des choses très intéressantes sur les serres d'Auteuil.
Ah bah tiens, ça me dit quelque chose, Alain B. Allez.